Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, eh bien, une émission avec des films qui sont sortis avant le 16 septembre, pardon. Et puis des films qui sortent le 16 septembre. Et ce sera le cas donc de l'un de tes films, Manu.
Alors Prémonition, je vais déjà parler de Prémonition qui est sorti la semaine dernière. Et puis True Story, un film américain avec James Franco. Et puis enfin, j'ouvrirai un cycle sur le film noir américain des années 40-50.
Et puis moi, le film qui sort ce 16 septembre, c'est Much Love de Nabil Ayouch, le franco-marocain. Et on aura l'occasion d'écouter Lubna Abidar, qui est l'une des actrices de ce film évidemment controversé au Maroc, puisqu'il dresse le portrait de femmes prostituées marocaines, et ça ne fait pas trop plaisir. Et puis, je vous parlerai aussi de The Lesson, qui est un film bulgare. C'est Cinérama qui débute.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, Prémonition débarque en France incognito avant même d'être sorti aux États-Unis, ce qui n'est généralement pas très bon signe, d'autant que les distributeurs ont eu l'idée imbécile de ne pas garder le titre original, Solace, qui signifie consolation, très approprié quant au contenu du film. Alors, comme s'il n'y avait pas eu assez de prémonitions comme ça, parmi une tripotée de productions, dont un film de Neil Jordan avec Annette Bening et Robert Downey Jr. Et puis un autre plus récent de Menan Iapo avec Sandra Bullock. Puis on compte pas les inédits qui portent ce titre. Alors je sais pas, Prémonition, ça doit attirer les foules. Mais en même temps, je ne suis pas sûr. Alors Solace est un thriller tendance Seven et Le silence des agneaux qui démarre plutôt bien. À Atlanta, un tueur en série exceptionnel laisse le FBI sur le carreau. Il anticipe tout ce que les agents fédéraux peuvent entreprendre comme s'ils savaient ce qui allait se passer. Alors pour faire avancer l'enquête, les flics se tournent vers le docteur John Clancy, un médium à la retraite, ancienne aide précieuse pour les affaires difficiles. Clancy va très rapidement se rendre compte de la raison pour laquelle le tueur est si doué et précis. Ce dernier possède lui aussi le don de médium, capable de prévoir l'avenir.
C'est une immense bêtise. Avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que le paranormal ne m'inspire aucune confiance.
On manque un problème, il se trouve que j'ai le même point de vue sur les psys.
Vous allez faire une sacrée équipe tous les deux.
Je peux la toucher ?
C'est l'heure exactement. Il est pile 4h16. Vous savez qu'on y serait pour 4h16 exactement. Parce que il sait tout. Il voit et il sait. Vous comprenez ? C'est quelqu'un comme moi. Il voit des choses. Sauf qu'il est plus doué. Nettement plus. Il me surpasse de loin. Je ne peux pas l'arrêter. Ce qui induit une question plus importante. Est-ce que ça en vaudrait la peine ?
Je voulais vous rencontrer depuis si longtemps. J'en reviens pas qu'on soit enfin face à face.
Alors le sujet est plutôt original et excitant, renouvelant de façon assez ludique des conventions d'un genre épuisé et souvent épuisant. Alors suivre pendant 1h40 deux flics opposés traquant encore un serial killer diabolique et insaisissable n'est plus jouissif du tout après les innombrables photocopies remakes et tout ce que vous voulez des films de Demme et Fincher. Mais surprise, Solace captive pendant la première heure, habile et tendu. Même si le cabotinage pénible d'Anthony Hopkins tire le film vers le bas, le second métrage d'Afonso Payart réserve quelques plaisirs inattendus que je m'abstiendrai de dévoiler sous peine de gâcher la fête. Alors disons que sans rien dévoiler, les scénaristes ont eu la bonne idée de réserver un sort pour le moins insolite à un des personnages principaux. Le duo Abby Cornish et Jeffrey Dean Morgan, les deux enquêteurs, fonctionnent très bien. Ils parviennent, au-delà des clichés, à rendre attachants des personnages assez stéréotypés en apparence. Alors l'autre point intéressant en filigrane concerne le fond du film, ce qu'il raconte sur la mort et la souffrance et d'une manière, on va dire, métaphorique entre parenthèses, sur l'euthanasie. Alors en surface, le film prend le parti consensuel et on va dire très américain de la vie, quel qu'en soit le prix. On pense assister à un réquisitoire surfait et un peu malhonnête contre l'euthanasie, Mais par une pirouette finale étonnante, l'idéologie, sans se renverser complètement, devient beaucoup plus ambiguë et nuancée. Alors sur un sujet aussi épineux, c'était la moindre des choses, mais ouf, on se dit qu'on a échappé, une fois n'est pas coutume, à une de ces énièmes productions étouffes chrétiennes et conservatrices. C'est un peu la chance, parce que c'est un peu la tendance aujourd'hui des thrillers et des films fantastiques d'être, je dirais, très catho. C'est une mode, ça dure depuis 2-3 ans, mais bon, c'est comme ça. Alors malheureusement, cette série B perd de son efficacité dès que le tueur fait son apparition à la moitié du film sous les traits du peu crédible Colin Farrell, là totalement en roue libre. Alors son cabotinage effréné entérine les bonnes intentions initiales, le rythme se relâche, l'intrigue finit par perdre le côté ludique de tout bon Woody Night. Quitte à dévoiler l'identité de l'assassin, pourquoi ne pas le présenter dès le début et centrer le récit sur les rapports troubles qu'il pouvait y avoir entre Clancy et le psychopathe. Mais au moins, on aurait eu droit à un jeu de chat et de la souris sur leur façon d'opérer. Enfin, je trouve toujours que de mettre comme ça le coupable au milieu du film, c'est assez étrange, en fait.
Mmh. Ah, c'est lui !
Oui, bon, c'est vrai que c'est spoilé apparemment sur l'affiche, hein, que je n'ai pas regardé. Hein. Mmh. Alors, en plus, le profil décevant du serial killer n'est malheureusement pas le seul défaut. La mise en scène est souvent à la ramasse, entre effets clipesques répétitifs dès qu'il s'agit d'envisager le futur, et coquetterie d'un chef-op qui n'a jamais entendu parler de plan fixe. Alors, pourquoi faire trembler même légèrement la caméra quand cela paraît totalement inutile ? C'est un peu une mode de tout film américain aujourd'hui. J'ai l'impression que ça vient des séries américaines. Il y a rarement des plans fixes dans beaucoup de films, on va dire, de blockbuster aujourd'hui.
Oui,
en fait.
Oh bah, le blockbuster est quand même réputé pour déjà, ne serait-ce que filmer un accident de voiture, faire oui, 12 plans
Mais c'est récent, parce que si on revoit des films comme L'Arme Fatale, il y a beaucoup de plans fixes. Enfin, d'une certaine époque, il y a eu une mode à un moment donné, il fallait faire comme si on était au cœur de l'événement.
Eh bien, tu en as terminé, donc ?
Oui, bien sûr. Voilà.
Prémonition, je n'avais pas prévu que tu terminerais si tôt. Prémonition, c'est déjà sur les écrans. Et nous allons passer, alors, quasiment sans transition, d'un quasi-blockbuster. Mais non, en fait, ce n'est pas un blockbuster parce qu'il n'est pas sorti aux États-Unis, hein, c'est ce que tu as dit.
Avec le Trou...
Ah, c'est non, True Story qui n'est pas... Okay.
True Story sorti aux États-Unis. C'est Prémonition qui n'est pas sorti
voilà,
aux États-Unis.
Oui, donc voilà, c'est bien celui-là. Ça. Prémonition n'est pas sorti aux États-Unis, donc je reprends le fil de ce que je disais. Et nous allons retrouver, en revanche, eh bien, un film bulgare, ce qui n'a rien à voir donc avec un film américain.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors nous sommes dans une petite ville bulgare qui ne ressemble à rien d'autre qu'à une petite ville d'Europe centrale. Le délabrement latent et l'oubli apparaît pesant. Nadia y vit et enseigne l'anglais dans un collège avec des élèves bien commodes, à ceci près que l'un d'eux vole ses petits camarades, ce qui contrarie Nadia de manière quasi obsessionnelle. Elle veut absolument que le fautif se dénonce. Alors que Nadia s'obstine, personne ne semble se manifester. L'histoire va nous embarquer ailleurs. Plutôt dans l'intimité de Nadia, sa famille a des problèmes d'argent, de ce genre de problèmes qui ne pourraient pas se résoudre facilement. Mais heureusement, eh bien, sa détermination est grande, hein, sinon le film s'arrêterait là. Et horreur, on comprendrait que les enfants continueraient de se faire voler et elle-même finirait à la rue avec sa famille. Voilà, bonjour le film bulgare. Eh bien non, le film bulgare a changé, ce n'est pas ça. Les réalisateurs nous embarquent dans une fable sociale traversée par le questionnement moral. Alors durant ce film, The Lesson, nous allons éprouver le bien et le mal, passer par une multiplicité de questionnements. Est-ce que la banque a raison si elle venait à lui retirer la maison ? Est-ce que son mari est excusable ? Est-ce que son père est profondément injuste ? Et puis finalement, qu'est-ce que le vol ? Qui vole et pourquoi ? Il y a un peu de tout ça dans The Lesson. Alors d'abord, le portrait d'une famille où un seul travaille et doit même mener deux boulots de front pour espérer s'en sortir. Et ce qui est rassurant, eh bien, c'est qu'ici, c'est la femme qui bosse. Hein. Le portrait d'une société aussi éclatée où l'argent est moteur et met à mal des principes de solidarité. Ça, c'est un peu le cœur du film. Alors, si The Lesson souffre de quelques défauts, on appréciera la détermination de son héroïne, qui est de toutes les séquences, filmée en gros plan. Alors, on a tout le loisir d'imaginer ce qu'elle pense de la situation qu'elle traverse. On a le temps de saisir la personne à qui elle est confrontée, qu'il s'agisse d'un huissier, pas forcément salaud, une employée de banque pas tout à fait obtus, mais quand même, son mari un peu couillon, mais pas méchant, son père avec sa jeune épouse à qui on aimerait mettre une bonne claque, ou le prêteur sur gage dont on se doute qu'il n'est pas tout à fait pourri. Mais quand même. Alors, elle en croise du monde dans sa course contre la montre pour réunir l'argent nécessaire eh bien, au minimum de ce qu'il est possible de faire en Bulgarie actuellement. Alors, au travers des yeux de Nadia, les réalisateurs dévoilent la lâcheté, la corruption, la dureté d'une société et en dépassant la fable sociale, ils parviennent à nous faire pénétrer eh bien, le thriller, mais en se bornant à une forme très sèche, pas de musique. Alors, peu de mouvements de caméra et les réalisateurs favorisent les plans fixes ou les caméras épaules, juste des personnages et une action C'est un peu ce qu'on ressent. Alors, on aurait l'occasion de tiquer sur certains aspects du scénario, mais on se laisse prendre tout de même au jeu, parce que le film sert aussi un autre propos. Outre le portrait donc, de cette société gangrénée par l'argent et les intérêts particuliers, il nous immerge aussi dans une société gouvernée par les hommes. Le film apparaît féministe, mais il ne tombe pas dans l'excès ou la caricature. Nadia est sans cesse confrontée au patriarcat. D'ailleurs, pour simplifier les choses, sa mère est morte. Il ne reste que son père auquel elle pourrait demander de l'aide. Ça tombe plutôt bien d'ailleurs, hein, puisque avec son beau 4x4 et sa maison bien rangée, eh bien, on le sent à l'aise. Mais les principes, eh bien, Nadia ne veut pas se compromettre pour de l'argent. Et elle se conforme à la leçon, cette leçon qu'elle veut donner aux élèves, mais jusqu'à un certain point. Voilà. Et c'est ainsi que le film commence. Donc, Dull Lesson de Kristina Grozeva et Petar Valchanov. C'est un film en duo d'ailleurs, ce qui est plutôt rare, donc c'est déjà sorti sur les écrans. C'est Cinérama, on retrouve maintenant eh bien, l'interview de l'actrice de Much Love, film de Nabil Ayouch.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Alors, entre la vie d'un joueur d'échecs américain Bobby Fischer hein, jusqu'à son match historique contre le russe Boris Spassky en plein milieu de la guerre froide, le démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende, l'étonnant destin de Florence Foster Jenkins, la cantatrice qui chantait faux, servant de point de départ à Marguerite, le nouveau film de Xavier Giannoli, et puis bien dans un autre style, l'histoire du groupe de gangsta rap Niggas With Attitudes dans Straight Outta Compton. Ou encore, eh bien, les rapports entre Michael Finkel, ex-journaliste du New York Times, et le tueur Christian Lango dans The True Story, dont tu vas parler bientôt, Manu, eh bien, cela fait 4 biopics, ou approchant, pour les sorties du 16 septembre. Alors, on le sait, l'avantage du biopic, c'est qu'on a déjà une trame existante. Ensuite, il ne reste plus, pour aller vite, qu'à décider de rester fidèle, voire méticuleux, vaguement fidèle, en se laissant aller à quelques modifications pour les besoins du cinéma, ou seulement de s'inspirer de la trajectoire qu'on porte à l'écran et de modifier à sa guise les éléments biographiques. Le projet de Nabil Ayouch, réalisateur de Much Love, se rapproche de la dernière catégorie. Pour faire le portrait des prostituées marocaines, le réalisateur franco-marocain, eh bien, en a rencontré presque 300. Alors, il aurait pu faire un documentaire, c'était d'ailleurs son projet initial, mais il a ensuite préféré opter pour la fiction. Much Love, qui a été interdit au Maroc, eh bien, nous plonge à Marrakech auprès de 3, puis 4 jeunes femmes qui vivent de relations sexuelles tarifées. Et pour Nabil Ayouch, eh bien, il s'agit de guerrières des Amazones des temps modernes. Mais pour la société marocaine, eh bien, ce sont des parias. Les Saoudiens qui viennent faire la fête au Maroc usent de leur charme, les Français aussi, et les Marocains également. Les profits qu'elles réalisent pour beaucoup, eh bien, elles le laissent à leur famille sans pour autant gagner en respect. Nabil Ayouch offre donc avec ce film un portrait de prostituées marocaines dans une société qui les utilise en les condamnant. Il en profite pour illustrer eh bien, aussi le tabou de l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine. Et puis aussi, eh bien, il met en scène les transsexuels. Alors nous avons rencontré la comédienne marocaine Loubna Abidar qui tient le rôle de Noah. Inspirée d'une vraie prostituée, eh bien, c'est le personnage principal. Elle est entière, excessive, professionnelle, mais aussi généreuse et aimante. Elle fait le trait d'union entre tous les personnages. Loubna Abidar nous parle de Much Love dans Cinérama.
Au début, il voulait faire des commentaires. Et à la fin, il a fait des commentaires fiction. Mais il veut vraiment des femmes qui ont des vécus, qui sont des femmes... Et c'est sûr que les actrices au Maroc et dans le monde arabe, ils ne peuvent pas dire des gros mots, ils ne peuvent pas se mettre nus devant une caméra. Alors, elle ne voulait pas signer avec une actrice qui, à la fin, elle va dire « Non, je veux un doubleur, non, je fais ci, non, je ne fais pas ça. » Moi, je descends d'un quartier pauvre. J'ai grandi au milieu de ces femmes. J'avais des gens proches dans ma famille qui faisaient ça. Et j'ai trouvé que c'est l'occasion de montrer la force et la magie de ces femmes-là. Ce n'est pas leur misère. Parce que dans le monde entier, il y a des prostituées. Toutes, elles vivent la même chose. Mais elles sont un petit peu particulières, ces femmes-là. Elles sont des guerrières pour moi.
Alors, on sait que Nabil Ayouch s'est documenté sur le sujet. Il a parlé de nombreuses femmes, nombreuses prostituées qu'il a rencontrées. Vous, vous dites que vous avez vécu dans un quartier où, effectivement, il y avait ces femmes. Est-ce que là, pour le film, vous avez eu besoin d'en rencontrer ? Et voilà, comment vous avez construit le rôle ?
J'ai rencontré beaucoup parce que j'ai grandi, je l'ai vu, mais elles n'étaient pas mes copines. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elles faisaient. dans le privé, quoi, en vrai. Mais je sais qu'ils sont bien maquillés, ils sont très gentils, ils donnent d'argent à tout le monde. Tu viens embrasser une d'eux, toujours elle a des bonbons pour toi, toujours elle a d'argent pour toi et le bon sourire. À part ça, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe en privé. Mais j'avais le courage de planquer une caméra cachée dans mes vêtements et payer une maquerelle. Et je rentrais dans une soirée des Saoudiens où j'ai passé 3-4 heures et j'ai filmé tout ce qui se passait là-bas. Et c'est de là que ça a commencé la préparation pour mon rôle. Et aussi, Noura qui joue son rôle, c'est une fille vraie qui existe. Bon, dans la réalité, elle ne s'appelle pas Noura. Mais j'habitais quelques mois avec elle et les autres filles à la maison. Et aussi, elle était présente avec moi dans le plateau. C'est elle qui choisissait les vêtements, les maquillages, la façon de danser et tout.
On voit que c'est un sujet qui, au Maroc, pose question, mais qui poserait question peut-être dans d'autres sociétés. En tout cas, ce qui est remarquable ici, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de solidarité qui se joue. Alors parce qu'il y a des questions aussi sur la sexualité, sur le genre, avec un transsexuel, avec une des prostituées qui, finalement, est peut-être lesbienne. Alors oui, on comprend qu'elle refuse de tarifer ces nuits. Il est question vraiment de nombreux exclus de la société marocaine. Enfin, parce que pareil, l'homosexualité, elle est présente, mais on n'en parle pas.
Oui, on ne parle pas et c'est vraiment très dangereux là-bas quand tu parles. Mais malheureusement, on a des quartiers qui y a des travestis habillés, ils sont là dans les trottoirs. Personne ne parle avec eux, il y a leurs clients qui viennent les chercher. On fait comme les enfants aussi. On a sur la place du Jemaa el Fna beaucoup de femmes là-bas qui louent leur enfant à l'heure. Et personne ne parle avec. Mais quand on voit ça dans le grand écran, ça choque.
Much loved. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce titre?
Alors,
qui n'est pas le titre de base d'ailleurs, il me semble.
Non, le titre de base, c'est Zinlifik. Alors Zinlifik, il n'a pas qu'équivalent en français. Et équivalent à peu près, c'est en anglais. Et Zilifik en arabe, on le met à la fin. Et l'attention de réalisateur, parce que la fin, il y a la phrase qui monte comme ça, Zilifik. On veut vraiment chercher la beauté quand il y a dans vous. Vous voyez, certes les femmes.
Voilà, c'est Lubna Abidar, donc l'actrice de Much Love, film de Nabil Ayouch, qui n'est pas sorti au Maroc. Alors, on lui a posé la question, pourquoi les Saoudiens, finalement, pourquoi on voit des Saoudiens qui font des fêtes monstrueuses à Marrakech? Elle nous explique.
À Dubaï, par exemple, il y a des discothèques, il y a des prostituées du monde entier. C'est devenu la mode là-bas. Ils sont un petit peu libres. À Qatar, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose, sauf l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, tout c'est péché. Oui. Il n'y a rien. Tu vois, il y a la Mecque, il y a des sociétés qui, même pas les Saoudiens qui travaillent, c'est des gens de dehors qui travaillent. Il n'y a pas de cinéma, pas de théâtre. Tout c'est péché. Alors, comme c'est tout péché, on doit chercher une pays que c'est pauvre, qu'il y a beaucoup de la misère, il y a beaucoup de choses, on va faire la fête là-bas et s'exploser. Parce que les Saoudiens, quand ils boivent d'alcool, ils boivent trop d'alcool. Quand ils font la fête, ils sont des vrais sauvages. Mais aujourd'hui, je suis interdite de rentrer à l'Arabie Saoudite. Mais quand j'ai reçu ça, je dis, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Merci, merci de m'interdire, quoi.
Alors voilà, donc ça fait partie effectivement des interdictions. Il y a eu des pressions sur le film et les participants. Le film n'est pas visible au Maroc et Nabil Ayouch se retrouve victime d'une fatwa. Et il a déclaré qu'une page Facebook se crée pour demander ton exécution et celle de ta comédienne et qu'elle recueille 4000 likes dépasse l'entendement. 4000 personnes réclament ta mort pour un film bien qu'elles n'ont pas vu. Et on a posé la question évidemment à Lubna Abidar, est-ce qu'elle a subi des pressions? Elle nous raconte.
Il y a des appels, il y a des lettres, il y a carrément des gens devant chez moi qui, entre guillemets, ils disent qu'ils sont les jeunes fidèles de Daesh au Maroc. Je m'en fous de tout ça.
Voilà. Elle a décidé pour la suite de sa carrière de ne pas travailler au Maroc parce que ça va être compliqué pour elle. Et elle va, semble-t-il, plutôt travailler pour des productions françaises maintenant. Voilà, c'était Lubna Abidar et le film c'est Much Love et on vous le conseille à Cinérama.
La culture est en de bonnes mains, m'a-t-on dit.
Cinérama.
J'en suis conscient à chaque instant.
Sur Divergence FM.
Alors, à première vue, True Story semble être un véhicule formaté afin de propulser la carrière de Jonah Hill et démontrer qu'il peut s'acquitter d'un rôle sérieux pour la première fois de sa carrière, si l'on excepte celui tragicomique dans Le Loup de Wall Street. Alors, il est plutôt convaincant, bien que franchement, lui ou un autre aurait fait l'affaire. Sa bonne bouille sait bien son personnage et il faut reconnaître qu'il est plutôt sobre, ne cherchant pas à en imposer plus que de rigueur. Alors, dans le genre bouche ouverte et tête d'ahurie, il imite bien le jeu de John Cusack. Il incarne donc Michael Finkel, le journaliste de New York, du New York Times, qui s'est fait virer pour avoir falsifié des informations dans un article à tendance humanitaire. Il va néanmoins rebondir lorsque Michael Longo, accusé d'avoir tué toute sa famille, se fait arrêter en se faisant passer pour le journaliste. Intrigué, Finkel décide de rencontrer Longo pour essayer de comprendre les raisons de son acte et aussi pourquoi a-t-il usurpé son identité. Fasciné par le récit du présumé tueur, il va douter de sa culpabilité et entamer l'écriture d'un livre, True Story, qui est, soit dit en passant, comme l'indique le titre, tiré d'une histoire vraie. Alors, on voit bien ce qui a pu intéresser le débutant Rupert Gould en adaptant l'ouvrage autobiographique du journaliste. Comment, donc, un journaliste va se retrouver confronté à ses propres failles en succombant à une fascination étrange pour un tueur manipulateur, un pervers narcissique profitant intelligemment de la notoriété d'un homme pour faire parler de lui avant tout. Alors, le sujet est troublant et ambigu sur le papier. À l'écran, le résultat déçoit. L'un des problèmes majeurs du film tient au jeu sans nuance de James Franco, ou peut-être à son personnage, unidimensionnel et quand même prévisible, un comble étant donné les enjeux du film. Car dès qu'il apparaît à l'écran, nous n'avons aucun doute quant à sa culpabilité. Il a effectivement assassiné sa femme et ses trois filles, et on reste un peu éberlé de voir ce pauvre Jonah Hill tomber dans le panneau, alors qu'en tant que professionnel, il devrait tout de suite discerner le vrai du faux. Alors c'est dommage, d'autant que le réalisateur n'est pas malhabile. La beauté des plans glacés, le soin apporté à une lumière favorisant des éclairages ternes, distille dans un premier temps une ambiance un peu insidieuse, faussement apaisée. Alors le rythme léthargique agace au début, mais finit un peu par envoûter. Mais le scénario n'est vraiment pas à la hauteur, avec notamment des séquences du tribunal d'une banalité affligeante. Il manque au film, on va dire, un trouble, un vertige, pour qu'on puisse y croire. L'affrontement entre les deux personnages provoque absolument aucun malaise, chacun restant bien défini dans sa position, l'un dans celui du bon samaritain et l'autre dans la peau du monstre qu'on ne peut sauver. Alors, la perversité de Longo aurait dû contaminer l'esprit de Finkel de manière quand même plus déstabilisante, et cela n'apparaît pas à l'écran. Et lorsque la femme de Finkel va voir Longo et lui balance ses quatre vérités sur ce qu'il est profondément, soit un tueur en série taré et dangereux, le film s'écarte proprement de tout danger d'interprétation. Et là, on rêve un peu de ce que certains cinéastes, pensaient à William Friedkin, auraient pu tirer d'une pareille histoire, soit un récit tordu, fiévreux et complexe, et non, on va dire, un produit assez consensuel et politiquement très correct, assez plat.
Alors, en revanche, je dis que le journaliste du New York Times, quand il voit le tueur, n'arrive pas à discerner le vrai du faux, est-ce qu'il est coupable ou pas. Il faut préciser que ce journaliste ressort, il a été viré du New York Times parce qu'il a été décrédibilisé sur une de ses affaires. Donc, pour lui, c'est l'occasion aussi de refaire surface. Voilà. C'est important, pour le film. Voilà, True Story, lui, on ne le recommande pas.
Non, pas vraiment.
Allez, tu vas ouvrir sur une série.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Donc, mon cycle consacré au cinéma noir, je commence par quelque chose, un film un peu particulier, puisqu'il ne se situe pas dans une époque contemporaine, dans les années 40-50, mais au 19e siècle. Alors, on va dire que c'est un film noir en costume. Et ce film, c'est Le démon de la chair. Alors, Jenny Hager n'est pas née sous la meilleure étoile. Entre un père alcoolique et une mère qui a fui le domicile conjugal, elle est à la fois la victime et le bourreau de son propre destin. Petite fille, alors qu'elle jouait avec des amis, elle tenta de noyer un de ses camarades. Mais déjà manipulatrice et séductrice, elle sauve l'enfant de la noyade, s'attribuant les honneurs des autres. Alors cette séquence inaugurale caractérise à merveille la personnalité d'une des figures maléfiques les plus fascinantes rencontrées dans un film noir. Jenny n'est pas, à proprement parler, l'archétype de la manipulatrice, de la femme fatale, telle que le cinéma américain a érigé en icône grâce à des actrices totalement hypnotiques telles que Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort, Lana Turner dans Le facteur sonne toujours deux fois, Jane Tierney dans Laura, Rita Hayworth dans Gilda ou encore l'incontournable Lorraine Bacall dans Le grand sommeil. Jenny souffre d'un mal, un mal-être en fait finalement commun, le besoin de reconnaissance, d'être aimée et adulée par autrui. Ce besoin quasi pathologique va se cristalliser aux dépens des autres, quitte à les faire souffrir ou à les pousser à l'irréparable, notamment le meurtre et le suicide. Alors Jenny veut dans un premier temps sortir de sa condition de prolétaire, accéder à la luxure en épousant le vieux porteur, un commerçant devenu riche, puis elle va séduire son fils et le pousser à tuer le père. Alors en apparence, Jenny incarne le mal dans toute sa splendeur, son désir de manipuler les hommes est quasi pulsionnel, incontrôlable. Elle n'est pas machiavélique au sens strict du terme. Elle n'a pas de plan préétabli. Le schéma classique du roman noir à la Chandler ou James Cain se trouve chamboulé par la description d'un personnage issu, on va dire, d'un cinéma fantastique à tendance gothique. Comme si Jenny était finalement le jouet d'une force divine défiant les lois de la rationalité. L'action d'ailleurs se situe par ailleurs en 1820 dans une petite ville portuaire de la Nouvelle-Angleterre. Cette ville est décrite comme un lieu de perdition où les hommes s'adonnent à l'alcool et à la violence envers les femmes. Les autorités en place ont bien du mal à gérer ce mode de vie décadent. Cette atmosphère un peu chaotique tempère l'aspect misogyne que le film peut revêtir. Alors la religion est aussi très présente dans ce film étrange qui baigne dans un climat oppressant et de désirs refoulés. La grande force du cinéaste, Edgar J. Ulmer, est de rester sur une position ambiguë, constamment ambivalente. La mauvaise graine qui dévore les entrailles de Jenny ne la rend pas complètement antipathique. Elle est humaine, consciente du mal qui la possède. Elle culpabilise mais ne peut s'empêcher d'assouvir ses envies, même les plus inavouables. Le regard d'Ulmer est presque compatissant. Le moment complètement halluciné où le prédicateur, qui ressemble d'ailleurs à une sorte d'illuminé de Dieu, s'en prend aux femmes viciées par le péché et la luxure, entretient un malaise réel, d'autant que Jenny ne peut retenir ses larmes comme si elle était jugée à cet instant. Alors loin du thriller mécanique jouissif, Le démon de la chair est un film bouleversant, un mélodrame finalement désespéré qui renvoie au sublime péché mortel de John Stahl. Mais aux couleurs flamboyantes de ce dernier, Ulmer opte pour un noir et blanc sombre et secret, héritage direct des ambiances expressionnistes. La séquence de l'orage d'ailleurs où Jenny va tomber dans les bras de John, un des personnages principaux, John Everett, impeccable George Sanders, soit dit en passant, est absolument sublime. Elle porte en elle toute la puissance symbolique que véhicule un humour désiré à n'importe quel prix. Alors les éclairages traduisent l'intensité, puisque cette scène se situe avec des éclairs très puissants.
Oui, mais ce sont des éclairages.
Oui, c'est des éclairages.
C'est du cinéma.
C'est du cinéma, ouais. Traduisent l'intensité charnelle et érotique d'un des baisers les plus fascinants de l'histoire du cinéma. Alors on pense à un autre réalisateur de mélodrame, Douglas Sirk, qui est par ailleurs crédité au générique pour avoir réalisé quelques séquences. Et on peut supposer que celle-ci en fait partie. Edgar Ulmer, figure atypique du cinéma, capable du pire comme du meilleur, auteur de séries B incroyablement bien tenues, notamment le formidable Détour, film noir réalisé en 6 jours, qui dure à peine une heure. Alors signe sans doute là son meilleur film avec un autre, Le Bandit, un western déchirant d'émotions, et puis aussi une adaptation d'Edgar Poe, Le Chat Noir, qui réunissait dans le même film les légendaires Boris Karloff et Bela Lugosi. Alors la mise en scène, intelligente et inspirée, parvient toujours à pallier les carences budgétaires grâce à une gestion de l'espace impeccable et à un sens du cadre inouï. Eddie Lamarre, que les cinéphiles ont déjà vu dans Samson et Dalila, parmi son film le plus connu, trouve là son plus beau rôle au cinéma, avec peut-être celui de la jeune femme manipulée dans l'excellent Angoisse de Jacques Tourneur. Alors le film est trouvable chez un petit éditeur qui s'appelle Backfilm. Et c'est un peu particulier parce que ce n'est pas vraiment un film noir classique. Puis c'est fait partie des séries B parce que c'est quand même un petit budget malgré une distribution tout de même assez prestigieuse.
Et voilà, donc film en costume.
Du 19e. Mais c'est pas très présent, c'est pas très important en fait. Ça pourrait se passer maintenant. Enfin, il y a pas de. C'est pas le film en costume où on doit admirer toute la haute couture en place
à l'époque. Merci Manu, tu reviendras donc la semaine prochaine avec un autre film noir
qui s'appelle La Grande Horloge de John Farrow, qui a été traduit en France parce que c'était d'après un roman par Boris Vian. Voilà.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
C'était Cinérama, et c'était... c'est pas facile, voilà. On a pas mal buté sur les mots, mais c'est pas grave, on reviendra en forme la semaine prochaine avec Marine à nos côtés. N'oubliez pas qu'il y a plein de biopics à voir, mais ce sont pas forcément les meilleurs films de la semaine. Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Cinérama, il
n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.